Ils ont essayé, you try.
Ça fait deux jours, hein. Moi je les ai vus les femmes il y a deux jours, enfin, j'en ai eu vendredi, je les ai vus mercredi soir à Pouac. Je vais être sûre qu'elle est tout, parce que deux jours elles sont dans les champs.
Il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans les champs?
Oui, il y en avait d'autres mercredi, mais.
Vendredi matin, à Noranfonte, une petite commune, pas trop loin de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Quatre jeunes migrants, trois femmes et un homme d'Afrique de l'Est sont accueillis ce matin au presbytère. Un peu de nourriture et de réconfort, ça fait du bien quand on a passé la nuit dehors. Si les migrants affluent sur ce village de Noranfonte, c'est parce qu'il est situé non loin d'une aire d'autoroute sur la 26, l'autoroute qui va de Paris à Calais. C'est de là que certains migrants essaient de monter dans des camions pour rejoindre l'Angleterre. Difficile de faire parler au micro les migrants qu'on a rencontrés eux-mêmes, tant ils ont peur des persécutions. Mais on a pu discuter avec les bénévoles du collectif de soutien aux migrants.
Je m'appelle Lily, j'ai 28 ans, je suis à la recherche d'un emploi. Et ça fait 6 mois que je donne un coup de main, donc soit sur le camp de Noranfonte jusqu'au 20 décembre ou à Calais.
Michel Delannoy, je suis prêtre ici sur la paroisse du Pays de Saint-Benoît et sur l'Hilaire, Burbure. Depuis 5 ans, je vais sur Calais pour un soutien aux migrants. Et puis ici depuis quelques mois.
Norbert Crampon, je suis retraité, donc sans emploi. Et je pense que c'est normal de faire quelque chose. Je suis de Béthune et bon, je suis le dernier arrivé aussi dans le coin. Je les ai conduits un petit peu à la douche.
Je suis Monique Pouille, moi je suis mère au foyer. Ben, ça fait un an que je vais les voir tous les jours sur le camp, je leur porte à manger, je les aide.
Monica, c'est toujours Monica, Monica Cake.
Jérémy Disberg, donc j'ai 20 ans, je suis demandeur d'emploi. Ça fait depuis le mois de juin que j'aide les réfugiés sur Noranfonte et de temps en temps sur Calais.
Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a sensibilisé? Comment t'as été amené à participer à ce collectif?
Je voyais quelques migrants passer sur la nationale de Lillère jusqu'à Noranfonte quand je revenais sur Isberg. Donc après, je me suis intéressé plus ou moins s'il y avait un collectif qui était mis en place. Et donc après, je me suis intégré au collectif avec un ami d'Isberg. On est membre de la Ligue communiste révolutionnaire de la section bassin minier.
Mais au sein du collectif, tu fais quoi alors?
Alors, au sein du collectif, c'est assez divers les rôles. Voilà, chacun fait ce qu'il peut, en gros, c'est ça. C'est la débrouille.
Je change de vêtements tous les jours. Vous savez, quand il fait moins 4, moins 8, on leur portait dernièrement leur porte à manger tous les jours le midi. Hein, des pâtes, la sauce tomate, où ils avaient un repas complet par jour. Voilà, mais ils appréciaient bien.
Des clandestins, il y en a depuis 10 ans déjà qui passent ici sur Noranfonte, parce que près de Noranfonte, il y a une aire d'autoroute, l'aire de Saint-Hilaire-Côte, où les réfugiés tentent de monter dans les camions pour se rendre en Angleterre. C'est pour cela qu'il y a depuis 10 ans déjà, ça a commencé avec les Kosovars, et ensuite il y a eu des Kurdes. Et depuis deux ans, c'est l'Afrique qui vient ici, et puis les Palestiniens.
Donc concrètement, comment ça se passe? En fait, ils attendent un petit peu cachés dans cette aire d'autoroute pour essayer de monter dans les camions, sous les camions. Enfin, comment ils font?
Alors, non, ils sont pas sur l'aire d'autoroute même. Hein, ils sont dans la campagne, où ils se construisent des abris de fortune pour pouvoir attendre la nuit pour aller se rendre sur l'aire d'autoroute pour pouvoir passer.
Est-ce qu'ils y arrivent ou comment ça se passe?
S'ils sont là depuis 10 ans, c'est qu'ils arrivent à passer. Et parce qu'il y a aussi des personnes, des passeurs qui les aident à passer. Voilà. Il y a eu jusqu'à 80 personnes qui sont arrivées à un moment donné, ça n'a pas trop duré, mais autour de 50-60 personnes étaient pratiquement là toute la semaine, quoi. Hein. Le week-end un peu plus, mais bon.
Comment est-ce que vous venez en aide à ces personnes, ces migrants?
Sur Noranfonte, jusqu'à avant l'hiver, on va dire, ça se résumait à proposer des douches, donc 2 douches par semaine.
Les soins.
Chez le docteur, enfin les emmener chez le docteur quand il y a besoin. Quelquefois c'est l'hôpital, donc et puis.
Chaussures, vêtements, et puis on a assez souvent essayé de trouver une solution pour au moins qu'ils puissent changer leurs vêtements, donc soit les laver ou trouver une solution. Donc puis après c'était surtout de la discussion, passer du temps avec eux. Leur montrer qu'ils ne sont pas invisibles et qu'ils rêvaient de l'Europe, de l'Angleterre et de l'Europe et tout pour avoir de meilleures conditions et ils ne les ont pas. Ici, arrivés en France et tout, l'Europe, avec la France en particulier, montre un très mauvais exemple de nos sociétés. Mais nous, on est là pour leur dire, là, vous n'êtes pas invisibles et nous, on ne va pas vous massacrer et nous, on va vous parler. Que vous soyez africain ou palestinien ou irakien ou quoi que ce soit. Et notre travail aussi sur le terrain, c'est de leur proposer d'autres solutions, qu'ils avaient la possibilité de demander l'asile ici, puisque ce sont des gens qui ne sont pas expulsables, l'Érythrée étant perpétuellement en guerre, le gouvernement exerçant une répression féroce contre les jeunes et contre les déserteurs, parce qu'on a en fait presque exclusivement des déserteurs. Ils quittent le pays pour ne pas subir le service militaire obligatoire à partir de 18 ans, pour les hommes comme pour les femmes. Pour les Érythréens, c'est ça. Pour les Darfouris, on sait pourquoi ils partent, on le voit assez souvent à la télé.
Alors peut-être un mot sur vos rapports au sein de votre association avec les autorités préfectorales, police, gendarmerie. Bon, il y a plusieurs associations qui ont été mises en examen, ou en tout cas suspectées pour... justement parce qu'on leur reprochait de cette aide matérielle, de fixer des points de... d'attache pour les clandestins. Comment ça se passe, vous, avec les autorités ?
Nous, on a été convoqués par le sous-préfet au mois de décembre. Il nous a fait un rappel à la loi, cette fameuse loi, donc l'article L622-1, qui interdit toute aide au transport, à l'hébergement, l'aide à la résidence pour tout étranger entré illégalement sur le territoire. Mais il n'a jamais précisé l'article suivant qui explique que tout organisme humanitaire et tout individu participant à l'intégrité physique de personnes en difficulté ne peut être poursuivi, comme le dit le premier article en fait. Ça, c'est très souvent oublié par le sous-préfet. La peur du gendarme fonctionne, c'est pour éviter que trop de gens puissent soutenir ces réfugiés, si on peut les appeler comme ça. Après, les relations, elles sont relativement bonnes. Derrière les uniformes, il y a des êtres humains. Donc les gendarmes du coin comprennent aussi que de toute façon, on aura beau dire dans la presse, le sous-préfet aura beau dire dans la presse que les organisations sont débordées, mais tout le monde est débordé, puisque personne ne sait gérer. Les premiers à ne pas savoir gérer la situation, c'est bien l'Europe et l'État. Personne ne peut empêcher les gens de fuir leur pays en guerre. C'est la Convention de Genève qui les autorise. Tout le monde a le droit de fuir son pays quand il craint pour sa vie. Et maintenant, on ne les laisserait pas entrer. Donc on leur accorde le droit de fuir leur pays, mais pas la protection nulle part. On ferme les portes de l'Europe et on les laisse mourir donc dans la mer Méditerranée. On les laisse mourir partout, on les renvoie en Libye où on les massacre, on connaît la situation de la Libye. Et puis après, pour la petite minorité qui arrive jusqu'à Calais, on leur propose une impasse, un cul-de-sac, et là on leur dit « débrouillez-vous, vous n'existez pas ». Sangatte a été fermée, vous n'existez plus, il n'y a plus de problème de réfugiés. Nous, on veut dire que non, c'est pas vrai.
Juste avant Noël, le 20 décembre dernier, le campement des migrants, campement de fortune qui était situé à Noranfonte, dans un champ près d'un bosquet, ce camp a été rasé sur demande du sous-préfet de l'arrondissement de Béthune, René Bidal. Une solution dénoncée par les membres du collectif de soutien aux migrants de Noranfonte.
Donc le camp a été entièrement détruit. Le coin a été déboisé, donc si on doit déboiser tous les endroits en France où il y a des migrants, il ne va plus rester grand-chose. Le problème, c'est qu'il faisait moins 4 la journée à cette époque-là et entre moins 8 et moins 10 la nuit. Donc c'est bien beau de se dire on a peur parce qu'ils vivent dans des tentes, donc on a peur qu'il y ait des morts et on va être obligé de chercher qui est responsable. Résultat, ils ont été jetés sur les routes, ils ont été jetés à Calais. À Calais, il n'y avait pas de moyen d'hébergement. C'est à ce moment-là qu'ils auraient pu mourir. Donc les migrants, n'étant pas tous au courant que le camp était détruit, sont revenus par petits groupes. Après, ceux qui étaient au courant ont quand même voulu revenir parce que l'aire de repos est le seul accès pour beaucoup de femmes pour passer. C'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de grillage. Donc à Calais, elles sont obligées d'escalader des murs, des grillages de 3 mètres, c'est pas possible. Elles sont trop petites, elles ne sont pas assez costauds. Donc cette aire de repos était très importante pour elles. Donc elles ont tenu à revenir. Mais évidemment, l'angoisse pour le sous-préfet et pour les gendarmes, c'est que certains restent dehors la nuit et effectivement, à ce moment-là, meurent de froid. Et là, eux auraient été les premiers responsables, le sous-préfet en premier. Donc ça a été une chasse. Après le 20 décembre, de date de la destruction du camp, pendant 3-4 jours, ça a été une chasse à l'homme dans nos rues, où dès qu'un migrant ou dès quelqu'un de bronzé pouvait descendre du train, la police se pointait à la gare ou ratissait les villages aux alentours. Je pense que, comme partout, la population se divise en trois. Il y a un tiers de gens qui va fermer les yeux, qui ne va pas s'intéresser au problème. Il y a un tiers de gens, quand il va voir ça, qui va venir nous appeler. Et il y a un tiers de gens qui appellera la police. Donc voilà, donc on était tous sur le terrain pour venir voir s'ils n'avaient pas besoin de quelque chose et pour leur dire surtout ne restez pas dehors, il fait trop froid. Mais évidemment, les migrants, nous connaissant depuis 6 mois, ils ont plus tendance, et en plus je parle anglais, donc ils ont plus tendance à venir nous parler à nous qu'à parler aux gendarmes, et ça les énerve, et puis donc on trouve qu'ils sont réfractaires, alors que ce qu'ils ont tenu à dire le 22 et le 23 décembre, c'est que la PAF, donc à Calais, les a libérés, et leur a dit « vous êtes libres, vous avez 7 jours ». Avec votre papier, vous êtes libre. Ils reviennent ici, paf, on les réarrête, on les remet de nouveau en garde à vue. Alors qu'il n'y avait aucune raison. Ils en sortent. Ils sortaient de garde à vue, ils retournaient en garde à vue. C'est la seule et unique solution que le sous-préfet a proposée. Et donc, nous, on pense sincèrement, et je pense que n'importe qui, même avec la peur de l'étranger ou quoi que ce soit, peut penser que ce ne sont pas des manières, des méthodes à utiliser envers des êtres humains. Point. C'est tout ce qu'on veut dire.
Surtout quand on regarde la situation des réfugiés qui sont sur Calais, il faut voir dans l'état d'abandon dans lequel ils errent. Ils squattent des lieux où ils sont dans les bois, à même les poubelles, etc. C'est vraiment pire que des bêtes parce que on n'accepterait pas qu'un chien il couche au milieu des poubelles.
Dans ces cas-là.
Et donc, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est inadmissible en France, de voir un tel... On les laisse complètement à leur sort, et alors qu'il y a peut-être d'autres manières de faire pour pouvoir les accueillir et les écouter dans ce qu'ils veulent vivre. Et je pense que la France est quand même assez outillée pour pouvoir accueillir ces gens qui viennent pour chercher un peu de paix, un peu de liberté. Je voulais dire, aujourd'hui, quand on parle de l'immigration, le mot qui vient juste avant ce terme immigration, c'est lutte contre l'immigration. Et je trouve que c'est un peu dangereux parce qu'on ne parle plus de l'accueil de l'immigration, de comment accueillir tous ces gens qui viennent. C'est tout de suite le mot lutte qui apparaît. Alors ça devient dangereux. Je crois que le phénomène de l'immigration, comme Lily le disait, c'est un phénomène qui a toujours existé. Il y a des gens chez nous qui sont venus de Pologne, il y a des gens qui sont venus d'Algérie, etc. Ils ont été plus ou moins bien accueillis, mais ils sont chez nous et ils sont chez eux. Et c'est ça qui est important. C'est pas de vouloir faire partir ceux qui viennent chez nous. C'est comment intégrer une nouvelle population, de nouveaux désirs de vivre. Et c'est ça qu'il faudrait regarder ensemble. Et je pense que quand on traite le sujet de l'immigration en employant le terme de lutte, on ne construit rien du tout.
Oui, le discours politique parle de lutte contre l'immigration clandestine. Souvent, cette lutte, en fait, s'apparente à une lutte contre les clandestins eux-mêmes, non ?
Contre les clandestins, c'est ce qu'on voit vivre aujourd'hui. Hein. La question, on arrête toujours les clandestins. Les passeurs, de temps en temps, il y a un avis du tribunal comme quoi il y a des passeurs qui ont été arrêtés, mais c'est exceptionnel, alors qu'aujourd'hui, la lutte, elle devrait peut-être plus se centraliser sur ce phénomène des passeurs qui profitent de la situation et qui s'enrichissent.
Moi, je demande j'ai une autre question aussi. Où est la logique de traiter pendant tout le long du parcours ces hommes comme des chiens, pour après se dire... c'est humain, et tous ces hommes, les 500 qu'on voit sur Calais et tout, 500 qui sont là tous les jours, donc chaque mois, chaque année, il y en a eu je ne sais combien, je ne sais pas si c'est chiffrable, mais il y en a tout le temps, et ils finiront bien par s'arrêter. Ils ont été traités comme des chiens pendant tout le long de leur parcours et tout, par toutes les franges de la population, que ce soit chez eux, leurs ennemis politiques, que ce soit par les Européens ou ce genre de choses, mais un jour, ils s'arrêtent de marcher et ils ont le temps de digérer ce qui s'est passé et de se demander pourquoi on leur a fait subir tout ça. Pourquoi on les a ratonnés dans leur petite tente de fortune en France, pourquoi certains sont blessés, pourquoi certains ont attendu d'être en France pour avoir la gale. Ce sont des gens, on les prend pour... quand on entend le sous-préfet dire qu'il ne... C'est pas la peine de leur offrir de douche parce qu'ils ne se lavaient pas déjà chez eux. C'est pas la peine de leur offrir à manger parce qu'ils ne mangeaient pas déjà chez eux. Ils ont attendu d'être en France pour avoir pour attraper la gale parce que les conditions sont exécrables. Pourtant, ils ne demandent pas à être accueillis en hôtel ou quoi que ce soit. Non. Eux, ils se débrouillent. Ils ont bien compris que même s'ils sont obligés de payer pour les filières, c'est uniquement la filière qui leur permettra de sauver leur peau. Alors on propose, on dit aux gens, c'est pas bien de migrer clandestinement, mais en même temps on fait rien d'autre pour leur proposer et on les pousse en quelque sorte dans ces filières clandestines. Sur nos renfontes, il y avait une petite cellule d'entre 30 et 60 personnes, ça dépendait des jours. Un seul parc, un seul point d'accès aux camions. C'était très 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 facile, je pense, pour la police qui a les moyens, j'espère, notre police nationale du 21e siècle en France, de pouvoir démanteler une filière, de pouvoir au moins les observer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont contentés, sous ordre évidemment, de ne venir que le matin ramasser les migrants dans les camions. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Ça ralentit les migrants, ça en laisse 400, 500, presque 800 sur l'ensemble des côtes françaises, parce qu'il n'y en a pas que à Calais, il n'y en a pas que chez nous, il y en a à peu près partout maintenant, Dunkerque, Gravelines, Lonne-Plage, Cherbourg, Caen, il y en a eu à Angres, il y en a sur les aires de repos aussi, à Saint-Omer, tout ça. Forcément, ils disséminent. Donc à quoi ça sert d'arrêter le migrant dans le camion ? Évidemment qu'il faut le faire. Mais alors que pendant ce temps-là, on ne fait rien et on ferme les yeux pour les passeurs qui ouvrent, ferment les camions, qui violent les femmes, qui font pression sur les hommes pour la vie, qui leur demandent entre 500 et 1000 euros pour passer. Ces gens-là, ils n'ont pratiquement rien et en fait, ils payent leur ticket de survie pour arriver à l'Angleterre. Ils vont le payer pendant 20 ans. Parce qu'arrivant en Angleterre, non seulement ils envoient de l'argent à la famille pour que la famille ne crève pas de faim et puisse payer le gouvernement pour leur dire « s'il vous plaît, ne nous tuez pas parce que nos enfants sont partis », c'est à ça que ça sert l'argent, et aussi à rembourser les passeurs, parce que ça leur coûte 1000 euros pour traverser le Sahara, ça leur coûte 1200 euros pour traverser la mer Méditerranée, ça leur coûte 1000 euros pour aller de la Grèce, de la Sicile à Calais, et après encore 1000 euros pour faire Calais l'Angleterre. Évidemment, quand on dit qu'ils sont pauvres, ouais, bah, ça leur coûte entre 4 et 5 000 euros, parfois 10 000 quand ils ont des voies très très sûres, et donc tout ça, ils vont le rembourser pendant 10 ou 20 ans. C'est ça qu'on leur propose en Europe. Le Noranfonte, ils avaient la possibilité, c'était un petit groupe de passeurs forcément, ils auraient pu les observer sur le parc, ils auraient pu remonter les appels ou genre de choses, rien n'a été fait parce que ça ne m'intéresse pas. Étant donné que c'est une immigration qui n'a pas vocation à rester sur le territoire, tout le monde s'en fout. Ils n'existent pas, ils sont invisibles. Et on demande aux associations de se taire pour ne pas les rendre visibles, parce que c'est gênant. Parce qu'on a dit qu'en 2002, on avait détruit Sangatte et qu'il n'y avait plus de réfugiés, ça n'existait plus sur le territoire. Bah, c'est faux. Ils sont là, les filières sont là, les premiers mafieux et tout, ce sont les passeurs. Et les deuxièmes, c'est aussi l'État qui ne fait rien et qui s'en fout.
Ce que je voulais peut-être un petit peu rajouter, je suis tout à fait d'accord, bien entendu, avec ce que vient de dire Lily et ce que vient de dire l'abbé Delannoy, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse agir quelque part, au moins au niveau réglementaire, si ce n'est au niveau législatif, pour faire évoluer les choses. Je ne dis pas qu'il faut changer tout, parce que c'est une question de politique, ça, c'est peut-être pas de notre sort, mais peut-être au moins faire comprendre aux gens, aux autorités, à nos députés, qu'ils soient européens ou français, leur faire comprendre qu'on ne peut pas laisser des gens qui sont dans cette impasse maintenant, aux bornes ou à la limite de l'espace de Schengen, on ne peut pas les laisser crever comme des chiens, comme on a dit tout à l'heure. Hein. Ces gens-là sont là et on ne peut pas les expulser. Alors qu'en fait-on ? Il faut bien quand même, quelque part, ou bien les aider à y voir clair, à prendre leur marque, les aider au point de vue langue, les aider au point de vue sanitaire, etc. Mais ça soit pas seulement de l'immédiateté, puis qu'on fait ça dans la journée, on les laisse la nuit errer dans les champs. Non, il faut arriver à trouver une structure, quelque chose qui puisse les aider, au moins, c'est peut-être pas un appel aux autres, mais au moins ceux qui sont là, les aider à s'en sortir.
Bah, si on devait avoir... Parce que les gens qui vont nous entendre, ils vont se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors dans ces cas-là ? Donc, évidemment, il y a ceux qui peuvent, ne peuvent se contenter que s'ils ont des couvertures, des chaussures de sport, des chaussures pour chaudes pour, contre la pluie, des jeans, des pulls, ce genre de choses, c'est toujours possible de déposer ça sur l'Hilaire, sur Noranfont, sur Calais, de contacter, c'est toujours possible. Après, est-ce qu'ils veulent une solution pérenne, les gens ? Est-ce qu'ils veulent vraiment régler le problème de fond ? Donc oui, ils peuvent écrire une petite lettre à leurs députés, au sous-préfet, au préfet, qui trouvent les interlocuteurs qu'ils veulent pour leur dire « Non, on ne veut pas de cette Europe-là. On ne veut pas de cette Europe où une proportion sera à l'abri, riche, avec un travail, tout ça, et l'autre proportion, de migrants étrangers clandestins qu'on massacre allègrement, et puis le reste aussi de la population qui fait ce qu'il peut et qui s'estime heureuse parce qu'il y a pire qu'eux en regardant les migrants. Donc oui, ils peuvent le faire quand ils voient leur maire, quand ils voient leur député, c'est leur répéter à chaque fois, ou écrire une petite lettre, un mail, ou pour exprimer leur indignation et le fait que les politiques à l'heure actuelle sont au service de la population pour créer un pays, une condition de vie pour toute la population, et donc c'est à la population de choisir. S'ils ne veulent pas de ce genre de méthode, qu'ils le disent, qu'ils le fassent savoir.
C'était les bénévoles du collectif de soutien aux migrants de Noranfont, près de Béthune, Lily, l'abbé Lannois, Norbert, Monique et Jérémy. Si vous voulez rentrer en contact, c'est possible par le biais du collectif de soutien d'urgence aux réfugiés de Calais, le CESUR. Pour plus d'informations ou pour apporter votre aide, direction par exemple La Toile au www.cesur62.com.